Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 19 août 2023. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Gatikakawe. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord la charpente. Les études ne servent à rien si ceux qui les ont faites ne les utilisent pas pour développer leur pays. Voilà en substance le message donné avant-hier à Guy Tiega au Burundi de la diaspora. Dans ce journal, vous entendrez un spécialiste de l'éducation qui propose plutôt au président Ndayishimiye de créer un environnement qui puisse permettre à ces Burundais d'investir chez eux. Et puis les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie, toujours persécutés. Hier, leurs champs de Bananere ont été détruits par des malfaiteurs. Enfin, dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi, nous parlerons du travail de la Cour suprême. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, Joséphine Jones-Mundimana, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Le tribunal de grande instance de Muyinga a condamné à la peine à perpétuité hier vendredi dans un procès de flagrance le nommé Jean-Claude Bigendako pour avoir tué avec méditation sa concubine Alexine Moussabgassoni. Jean-Claude Bigendako, enseignant à l'école fondamentale de Matiazo en commune de Gassogwe, a plaidé coupable déclarant qu'il avait agi sous le coup de la colère. Il a expliqué que sa concubine avec laquelle il avait eu 8 enfants allait le quitter. Dans la suite de ce journal, les intellectuels de la diaspora burundaise ne mettent pas à profit leurs études pour contribuer au développement de leur pays. Cela a été dit par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ce jeudi à Gitega, dans une rencontre avec les Burundais de la diaspora. Il a par ailleurs douté de l'importance de l'instruction dans les écoles avant d'appeler cette diaspora burundaise à plus de conscience. On écoute le président de la République, Evariste Ndayishimiye.
Vous dites que d'autres pays se sont développés grâce au travail des intellectuels. Qu'est-ce que vous en êtes, vous? Ce que vous avez appris nous sert à quoi? Nous avons beaucoup de gens qui ont étudié, des docteurs, des ingénieurs, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Avec ça, est-ce que vous pouvez dire que l'instruction dans les écoles amène le développement? Je vais vous dire une chose, science et sa conscience n'est que ruine de l'âme. Je sais que vous avez étudié, mais est-ce que vous avez l'âme? Est-ce que vous avez la conscience? Vous avez étudié, mais avec formatage. La conscience est zéro. Voilà pourquoi on ne se développe pas. Ce n'est pas une question de ne pas avoir été à l'école. Et d'ailleurs, nos ancêtres pouvaient bien se débrouiller dans la vie de tous les jours sans avoir vu l'école. Il y avait de bons forgerons, de bons menuisiers. Ils étaient même capables de bien garder la viande en bon état pendant une année sans frigo. Je vous dis, il faut savoir différencier l'intelligence et l'instruction. Vous, ce que vous avez appris à l'école a été formaté et on ne peut pas se développer avec ça.
Rally Nibizi, qui suit de près les questions en rapport avec l'éducation au Burundi, pense que quand l'instruction dans les écoles ne donne pas les résultats escomptés, ce n'est pas la faute de la population, mais des dirigeants qui n'arrivent pas à corriger et à opérer des changements. Pour elle, le président de la République devrait créer un environnement socio-politico-sécuritaire pouvant permettre à la diaspora burundaise à venir investir au pays. On écoute Rally Nibizi.
Quand l'éducation ne parvient pas à transformer l'individu, ne parvient pas à transformer les attitudes, ne parvient pas à transformer le pays et à changer le mode de vie de la population, ne parvient pas à développer le pays et le mettre au diapason du monde. Quand l'éducation ne produit pas la qualité escomptée, ce n'est pas à la diaspora de répondre de l'échec. Ce n'est pas à la population de répondre de l'échec. La qualité de l'éducation, l'impact de l'éducation, c'est d'abord un résultat observable à long terme et de manière progressive, mais chaque fois que le président de la République ou l'autorité quelconque langue constate qu'il y a un problème, là, il ne doit pas passer par les discours devant la diaspora. Ma recommandation, c'est que le président de la République fasse plutôt une autocritique. L'autocritique individuelle en tant que président de la République, mais aussi l'autocritique de l'institution, de la présidence, mais aussi de l'institution gouvernementale. Il faut qu'il puisse effectivement relever toutes les faiblesses qu'il a constatées, qu'il a annoncées à la diaspora, qu'il analyse ça avec son cabinet, qu'il appelle les techniciens pour constater que malgré la multitude de diplômes que nous avons au Burundi, le Burundi n'a pas changé, qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau de l'économie, au niveau de la gouvernance, et qu'il recueille les informations nécessaires et les conseils de la part des praticiens, de la part des techniciens, de la part des bénéficiaires de la diaspora elle-même. Et d'ailleurs, cela s'est passé pendant les évaluations qui ont été faites et les états généraux de l'éducation. Il devrait alors profiter des différentes évaluations qui ont eu lieu pour faire un changement. C'est lui qui doit inspirer le changement sur base des recommandations qui ont été données et enseigner ne suffit pas. Donner des connaissances et des compétences, ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement du Burundi crée un environnement favorable à l'application de ses connaissances, à la triplication de ses compétences. Oui, la diaspora est pleine de compétences et de potentialités, mais combien de fois la diaspora burundaise a été déçue une fois retournée au pays? Pourquoi? Parce que la sécurité économique, la sécurité physique et l'environnement des affaires, la gouvernance économique, la justice constituent un environnement qui décourage les investisseurs, qui décourage les Burundais qui voudraient venir développer leur pays.
Je vous le disais dans les titres, des champs de bananeraies des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie ont été détruits hier vendredi. Cet acte aurait été commis par des jeunes Burundais sur ordre du responsable du camp. Plus de détails avec Karine Dossabe.
Selon les informations en provenance du camp de Nyarugusu, la destruction méchante de ces champs de bananiers par les jeunes réfugiés burundais, commandités par le responsable du camp, a commencé dans la matinée de ce vendredi pour justifier que ce sont les réfugiés eux-mêmes qui détruisent leurs propres champs, comme le témoigne un des réfugiés du camp.
Nous, ici, à Nyarugusu, nous faisons face à d'énormes problèmes. Ce que font les Sungusungu burundais fait vraiment peur. Maintenant, ils sont encore une fois venus détruire les champs de bananes. Ils sont venus accomplir cet acte vers 8h du matin, à commencer par la zone 5 jusqu'à la zone 9. C'est devenu leur travail quotidien.
Nos sources révèlent que cette destruction a débuté très tôt le matin pour se terminer aux environs de 10 heures pour échapper à la vigilance des passants.
Ils se réveillent très tôt le matin, à tel point qu'ils commencent ce travail à 6 heures du matin, pour qu'à 9 heures, ils soient vers la fin. C'est-à-dire qu'ils terminent aux alentours de 10 heures. C'est pour échapper à la vigilance d'un tel ou telle autre autorité. Ils le font sans être accompagnés par des policiers. Même ceux du bureau du responsable du camp ne les accompagnent plus. Ils mettent en place des structures pour justifier que c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire leur propre champ, alors que l'ordre vient du responsable du camp.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version de Siasa Majenje, le responsable du camp de Nyarugusu, pour qu'il apporte la lumière sur ce dossier.
Inzamba.
Nous poursuivons ce journal avec le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur l'optimisme du président de la République, Evariste Ndayishimiye, quant à la performance de la Cour suprême dont les nouveaux membres ont prêté serment la semaine dernière. Mon fils Niyongere nous en dit plus.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Huit nouveaux membres de la Cour suprême ont prêté serment vendredi le 11 août 2023 devant le chef de l'État et magistrat suprême. Evariste Ndayishimiye a demandé de contribuer à la promotion de la justice burundaise, d'être des personnes justes, intègres et déterminées, contrairement aux autres instances judiciaires qui prônent de l'injustice. Une mission impossible pour les hommes de loi et activistes burundais. D'où vient cette méfiance et pourquoi? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 19 août 2023 à la présentation. Vous êtes avec Bonfils Niongere, bienvenue.
Devant Dieu Tout-Puissant, moi, Rose Nkorerimana, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, je jure de respecter la...
Après les cérémonies de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême, le président Evariste Ndayishimiye a reconnu qu'il y a aujourd'hui un bras de fer entre la justice qui prône l'impunité et le chef de l'État qui veut que la justice soit au service de la population, justifiant ainsi la nomination de ces nouveaux membres de la Cour suprême. Le chef de l'État lui a demandé de conduire le changement dans le secteur de la justice, étant donné que cette Cour constitue l'organe suprême de la justice burundaise.
Auparavant, le chef de l'État utilisait la justice comme son instrument, contrairement à aujourd'hui où le président de la République demande plutôt que l'injustice et la persécution soient éradiquées dans le pays. Mais le corps judiciaire dit non. Il soutient la répression, il soutient ceux qui violent la loi. C'est du jamais vu dans le pays quand un chef de l'État s'engage dans un bras de fer contre le corps judiciaire, alors qu'il ne cherche pas à l'instrumentaliser, alors qu'il lui demande tout simplement de servir convenablement la population. Alors, allons-nous fermer les yeux? Allons-nous accepter de devenir la risée de tout le monde? Parce que je me demande, vous savez, la justice, c'est la responsabilité internationale de l'État. La lutte contre l'impunité, c'est le devoir premier des Nations Unies. Comme les Nations Unies doivent vérifier si les pays luttent contre l'impunité et qu'au Burundi, je lutte tous les jours pour éradiquer l'impunité, dites-moi, si un jour l'ONU vient faire l'évaluation et moi, je décide de radier le corps judiciaire, est-ce que l'ONU sera contre moi ou contre la justice? Lorsque ces gens refusent de servir le peuple, comme leur demande le président de la République, va-t-on dire que le Burundi soutient l'impunité? Le Burundi que je représente soutient les sanctions à l'égard des auteurs d'infractions. Et si la justice soutient l'impunité, moi je vais la combattre et les Nations Unies seront de mon côté. Alors, vous, les nouveaux membres, ne confondez pas les nouvelles fonctions avec celles que vous occupiez dans les tribunaux. Il faut comprendre que nous sommes en train de tracer une nouvelle ligne de conduite pour pouvoir vous-même faire respecter la justice.
Pour Maître Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile force, cette cour n'est pas capable de défendre la légalité au profit de la population burundaise, selon cet ancien président du syndicat des magistrats du Burundi, Simabou. Il est impossible de compter sur une cour suprême qui se permet de condamner des gens qui n'ont jamais comparu.
Rien ne justifie l'optimisme du président Ndayishimiye quand il parle des performances de la Cour suprême, quand il promeut ou quand il instruit à ses magistrats de rendre la justice et de servir de modèle à d'autres instances judiciaires. Or, il n'est pas sans connaître que la Cour suprême, tout comme d'autres instances judiciaires, est incapable de défendre la légalité au profit des citoyens burundais, mais aussi au profit de l'image même du pays. Parce que quand la justice ne fonctionne pas convenablement, c'est l'image même, la crédibilité des institutions du pays qui en pâtissent. Aujourd'hui, on s'étonne de voir comment cette cour fonctionne quand une cour pareille se permet de juger. Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, parce que beaucoup peuvent donner des exemples des injustices commises par la Cour suprême. Moi, je donnerai un exemple simple. Un exemple que beaucoup connaissent, c'est la condamnation d'une trentaine de Burundais qui sont aujourd'hui contraints à l'exil, alors que ces personnes n'ont jamais été entendues et n'ont jamais été représentées par qui que ce soit. En pareille circonstance, on sait que les conséquences d'une telle décision sont extrêmement grandes, sont extrêmement importantes, parce que, après tout, les concernés ont interjeté appel et ont saisi des mécanismes des droits humains et des procédures qui vont aboutir à des condamnations de l'État du Burundi qui va être contraint à payer des réparations aux personnes lésées. Et ceci contribue à la décrédibilisation de l'appareil judiciaire, mais aussi des institutions du Burundi en général. Et donc, nous pensons que ce que le président du Burundi devrait faire, à part la nécessité de mieux identifier des magistrats à la hauteur de la mission qui est celle de la Cour suprême, il devrait absolument sanctionner certains magistrats comme Gateretse Emmanuel, l'actuel président de la Cour suprême, parce qu'il a démérité et il a versé dans la dénégation des droits des citoyens. Il a constamment démontré son incapacité à mieux représenter l'appareil judiciaire. C'est une honte pour la justice, c'est une honte pour la population burundaise. Ce qu'il fait, c'est une honte pour toute l'institution judiciaire.
Vous venez de l'entendre, quelle injustice dont la Cour suprême et d'autres cours en général se rendent régulièrement coupables et préjudiciables à l'image du Burundi. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine auquel de la société de ce samedi à la présentation. Vous étiez avec Bonfils Niongere. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Bonfils Niongere et comme tous les samedis, nous bouclons ce journal par la revue de presse. Elle a été préparée par Eddie Claude et Nina Azoué. Suivez.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Indamba Gatekakawe. C'est le moment de la revue de presse hebdomadaire. Commençons par le volet environnement avec le journal Burundi Echo qui écrit sur l'urbanisme qui menace l'environnement. En effet, plusieurs hectares d'arbres sont chaque année déracinés pour construire des maisons. Selon Burundi Echo, toutes les constructions, que ce soit les constructions en dur ou pas, les maisons basses ou à l'étage, les constructions dans les villes ou dans les campagnes, toutes elles utilisent les arbres. Suite à la vitesse d'urbanisation et à l'actuelle vitesse démographique, beaucoup de hectares d'arbres sont dévastés chaque année. Pour avoir l'idée de cette dévastation, le journal donne un exemple de la pose d'une seule dalle d'une maison simple d'habitation qui exige au moins 500 jeunes arbres pour l'échafaudage et le support de la dalle, sans oublier les planches sur lesquelles sera coulé le béton. Les 500 arbres correspondent à un demi-hectare. Ceci montre que le nombre d'hectares d'arbres abattus chaque année dans toutes les provinces du Burundi est énorme. L'utilisation des échafaudages métalliques indispensables pour sauver l'environnement, conclut Burundi Echo. Toujours avec Burundi Echo, mais cette fois-ci dans le domaine du commerce. Samedi passé, on avait parlé du Bureau Burundais de Normalisation, BBN en sigle, qui avait refoulé deux camions remplis de fer à béton à provenance du Kenya, qui ne respectaient pas les normes de commercialisation au Burundi. Cette fois, le même journal parle d'une alerte lancée par la société de production des fers à béton, Fabrie Métal, qui donne à la BBN de faire attention pour les conséquences néfastes qui peuvent surgir à cause de l'utilisation dans la construction des fers à béton qui ne remplissent pas les conditions. La société Fabrie Métal a fait une enquête dans les marchés de Kayanza, Ngozi, Luvumera, Gitega, Rumonge, Muinga et au quartier asiatique à Bujumbura. Les résultats ont montré que la majorité des fers à béton vendus dans ces endroits ne respectaient pas les normes. Par conséquent, le Burundi doit s'attendre à des catastrophes dont l'effondrement de maisons qui pourraient emporter des vies humaines et si rien n'est fait pour arrêter ce commerce. ABP Info dans ses colonnes pour boucler cette revue. Cette agence burundaise de presse parle du manque de bancs pupitres dans les écoles à la veille de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. L'agence s'est entretenue avec le directeur de l'éducation en commune Muruta de la province Kayanza au nord du Burundi qui a déploré le manque de bancs pupitres qui s'observe dans la commune Muruta. Selon cette autorité éducative, il faut remplacer 2000 bancs pupitres semi-métalliques non fonctionnels du fait qu'ils sont cassés sans jamais être réparé. En plus, la commune a besoin de 3703 bancs pupitres à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Le directeur de l'éducation en commune Emorota demande aux partenaires au développement d'aider à combler le vide pour démarrer en beauté la prochaine année scolaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons la revue hebdomadaire de presse de ce samedi sur Radio Inzamba. Vous étiez avec Diclaude Nazoué. Bon week-end à toutes et à tous. Rendez-vous samedi prochain.
Revue de la presse à la Radio Inzamba.
Merci Diclaude Nazoué. C'est pour cette revue de presse que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous. Au revoir et à la prochaine.